Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Michel Cassé, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un livre dont le titre est « Au croisement des univers parallèles ». C'est coécrit avec Joseph Silk et vous présentez en disant que vous êtes astrophysicien, ancien directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et que vous êtes spécialisé dans la physique stellaire, l'étude des rayonnements et la physique quantique. Quant à Joseph Silk, lui, ses travaux de recherche ont marqué tous les domaines de la cosmologie. Dans le livre, il traite des ressources lunaires et de la recherche de la matière noire. Alors déjà, ce titre, au croisement des univers parallèles, c'est beau comme une carte du ciel. Ça figure dans notre esprit des croisements, donc des angles, des parallèles. Et c'est vraiment très, très visuel comme titre et c'est magnifique. Est-ce que vous avez eu ce sentiment en prenant votre titre que ça évoquerait chez un lecteur une carte du ciel?
Oui et non. En fait, c'était une gageure. Le titre, finalement, m'a été soufflé par la relativité générale, c'est-à-dire la théorie d'Einstein, ou la géométrie non euclidienne. Je vais vous dire en deux mots de quoi il s'agit. Les droites parallèles ne se croisent jamais dans un univers dit euclidien, c'est-à-dire plat. Un peu comme la surface d'une table ou une feuille de papier quadrillée, si vous tracez les parallèles, elles ne se rejoignent jamais. Mm-hmm. Par contre, si vous prenez une sphère, prenez une map monde, mettez deux fourmis partant de l'équateur, par exemple, et qui suivent un méridien, chacune un méridien, elles partent parallèlement, mais elles se rejoignent au pôle. Vous voyez, donc, mm-hmm. les parallèles se rejoignent dans une géométrie non euclidienne. C'était une manière de faire valoir la tolérance géométrique. Vous voyez, mm-hmm. il n'y a pas qu'une géométrie, il y a plusieurs géométries. Par contre, si on dessine, si on fait partir des lignes parallèles dans un univers qui a la forme d'une selle de cheval, que l'on dit hyperbolique, alors les parallèles divergent au lieu de se rejoindre. Donc la notion de parallèle est relative. Elle est très relative bien. À la géométrie de l'espace dans lequel on travaille.
Alors,
ça, c'est la première chose.
Oui.
Excusez-moi.
Non,
je vous ai interrompu.
Pas du tout.
La deuxième chose, c'est, si vous voulez, non pas une divergence, mais une convergence d'ordre philosophique ou plutôt épistémologique, ou plus simplement une différence d'approche entre Jocille, qui est une personne extrêmement rigoureuse et entre guillemets sérieuse, et moi-même, bon, qui suis peut-être parfois aussi rigoureux, mais qui m'accorde au nom, je dirais, de la charte universelle de la poésie, de me contredire au moins trois fois, mais pas plus. Donc, il y a style dans la science. Donc, son style, c'est un style apodictique ou un style, je dirais, comment le qualifier, rigoureux, rigoriste même. Le mien est plus amusé, plus rieur, bien que nous atteignions les mêmes résultats et nous sommes amis. Là aussi, il s'agissait d'un phénomène, disons, que j'appellerais la tolérance. Parce que les physiciens tiennent colloque, mais les poètes parlent à tous. Donc ce que j'ai essayé de faire personnellement, depuis que j'existe scientifiquement, c'est d'introduire, si vous voulez, une notion, non pas de poésie, jamais je n'oserais me présenter comme poète, parce que j'ai trop de respect pour la poésie, mais de littérateur. Donc j'ai essayé de marier le verbe et l'équation, personnellement. Vous voyez ?
Eh bien, c'est comme ça, oui.
Qui sont des lignes qui, à mon sens, doivent se croiser quelque part.
En tout cas, en notre esprit, vous avez tout à fait raison, puisque par la langue que vous employez dans ce livre, pleine d'images, nous vivons, nous revivons tout ce que vous, toute cette science qui peut être opaque, qui pourrait ne pas nous parler, qui ne nous parle pas, si nous n'avons pas les compétences pour décoder toutes ces formules mathématiques, évidemment, c'est normal, nous sommes des néophytes, mais votre récit, votre prose au niveau de cet univers des étoiles, de l'origine improbable, impalpable, peut-être déjà profilé parce que vous avez, on arrive un petit peu à déceler cette origine. Alors s'il y a une origine, c'est qu'il y a un temps T, donc il y a un début. Il y a un début, il y aura une fin. Et si même...
C'est pas sûr. Alors justement, il se pourrait que l'univers soit ouvert, je dirais, vers le futur. Il n'est pas sûr que l'univers ait une fin, mais il pourrait très bien revenir vers sa propre naissance. Vous voyez, parce que ce qui accréditerait le mythe athée de l'éternel retour.
Voilà.
C'est encore une possibilité, mais actuellement, elle n'est pas privilégiée. Donc, qu'il y ait un commencement, certainement, mais je me demande si ça n'est pas le commencement de l'intelligibilité du monde. Parce qu'Einstein disait... la chose la plus incompréhensible du monde, c'est que le monde soit compréhensible. Mm-hmm. Voyez, effectivement, il y a quelque chose, quelque chose, c'est un mot bien, bien banal. Il y a. Donc, premièrement, la physique pose toujours l'existence. Vous voyez, on ne peut pas démontrer l'existence. La physique ne démontre jamais l'existence. Elle la pose. Alors, maintenant, on peut se demander si la théorie du Big Bang, donc la théorie de la cosmologie actuelle, donc qui fait valoir effectivement un temps zéro, ou plutôt une origine singulière, si cette cosmologie-là n'est pas une théologie. La question est essentielle, en effet, ou une cosmothéologie. Et donc, je me suis évertué, non pas à clarifier, parce qu'il ne s'agit pas de mon domaine de compétence, mais à ouvrir le dialogue avec des théologiens essentiellement catholiques. Et j'ai pas mal de contacts avec, effectivement, des penseurs hébraïques ou judaïsants. Notamment, la question se pose du panthéisme, donc du spinozisme. Pascal Chen a fait valoir que le philosophe qui avait sa préférence était Spinoza, qui pose l'identité entre Dieu et la nature. Vous voyez ? Dieu égale nature. Alors maintenant, on peut. Bon, c'est une équation. Si Dieu c'est D et nature c'est N. On peut confondre nature et univers, donc...
C'est une hypothèse, c'est une équation hypothétique. Et moi, oui. J'aimerais vraiment que vous nous parliez de ce dialogue que vous établissez entre le temps, l'espace, la matière. Oui. Là, c'est quelque chose de fascinant. Est-ce que l'espace détermine le fait qu'il y a un temps, puisque notre regard est peut-être apprivoisée par le soleil. Nous avons cette compétence de voir, d'ailleurs les animaux, vous le dites, ne voient pas la même chose que nous, ils voient, voilà. Donc si j'ai cette compétence de ma rétine, c'est que cette lumière du soleil l'a éduquée et qu'il y a une espèce d'amour, on va pas dire de sentiment, mais qu'il y a une adéquation entre le, voilà, entre le cosmos et l'adaptation humaine. Alors, l'espace, le temps, la matière. Et quelle matière, noire ou grise ?
Parce qu'il y a énormément de choses. Alors, je vais partir de la lumière. Courtois avec la lumière, je la laisserai parler la première. Mais incidemment, dans la Genèse, parce que nous réécrivons modestement la Genèse, la lumière n'est pas première. Il existe une forme naturelle qu'on appelle le vide quantique, très paradoxal, j'y reviendrai. Mais pour la lumière, il faut savoir que les atomes du soleil parlent aux atomes des yeux le langage de la lumière.
Voilà.
Donc, parce que nos yeux sont faits des mêmes... Le soleil est fait des mêmes atomes que nous. Ça n'est pas notre père. Le soleil n'est pas notre père, c'est notre frère. Nous sommes nés du même nuage. Parce que les étoiles, dont les nuages... les grandes, pas les petits nuages qui donnent la pluie et qui nous arrosent, mais les grands nuages interstellaires, c'est-à-dire entre les étoiles, qui sont les, je dirais, à la fois les réceptacles des cendres des étoiles défuntes, parce que nous reviendrons sur les étoiles. Les étoiles vivent et meurent, les étoiles ne sont pas éternelles. Nous y reviendrons dans un second temps. Elles inséminent l'espace des produits de leur alchimie nucléaire. Vous voyez, c'est une très belle histoire. C'est notre histoire et il faudrait la chanter, la danser et la donner à penser à tous parce qu'elle démontre que nous sommes effectivement des cendres et poussières, mais cendres et poussières d'étoiles. Donc, le soleil brille parce qu'il est chaud. Tout objet qui n'est pas à température nulle émettent un rayonnement. Vous-même, vous êtes une étoile, mais vous rayonnez dans l'infrarouge. Vous êtes une étoile invisible. Sauf si on se dote d'un détecteur de rayonnement infrarouge, plus rouge que le rouge, si rouge qu'on ne le voit pas, alors on vous voit dans la nuit, parce que vous émettez l'énergie, vous rayonnez. Donc le soleil rayonne parce qu'il est chaud. Il est chaud parce que sa chaleur est entretenue par les réactions nucléaires de fusion. Alors vous parliez d'amour, mais la plus belle image que l'on puisse faire valoir du soleil, c'est que il marie des particules qu'on appelle les protons, qui sont les noyaux de l'atome d'hydrogène, de telle manière à produire l'hélium. L'hélium, c'est un élément qui est composé, dont le noyau est composé par deux protons et deux neutrons. Donc, dans le Soleil, se pratiquent des milliards de mariages infiniment petits, donc très délicats. Et bon, j'oserais dire, le cri de joie, c'est la lumière. Mais cette lumière n'est pas émise en tant que lumière visible. Elle est émise sous forme de rayonnement gamma mortel. Les rayonnements gamma des bombes thermonucléaires. Parce que le Soleil, c'est une centrale nucléaire à confinement gravitationnel. Ça veut dire que chaque point du Soleil est attiré vers l'intérieur par ce qu'on appelle la gravitation, qui est l'attrait de la matière pour la matière, et repoussé vers l'extérieur par la chaleur. Vous savez que, enfin, tout le monde est conscient du fait que les pierres tombent.
Oui.
Enfin, tout objet, vous-même, vous tombez sur la Terre parce que vous êtes fait de matière, enfin, une matière qui vient des étoiles, en réalité. Si on retrace l'aventure de la matière, tous les atomes qui nous composent, sauf l'hydrogène qui vient du Big Bang, j'y reviendrai, donc de l'explosion originelle qui date de 13,8 milliards d'années, incidemment, en vous, il y a de l'hydrogène, dans votre sang et dans l'eau que vous buvez. Et sans le savoir, vous labourez la poussière des étoiles qui vous a été apportée par le vent, mais vous buvez l'univers dans une goutte d'eau. Ce qui est magnifique. Et l'hydrogène est vieux de 13,8 milliards d'années. Vous paraissez jeune, Mais en vous, il y a un élément qui est vieux de 13,8 milliards d'années, qui s'appelle l'hydrogène. Voyez ? Alors l'hydrogène est produit par l'explosion originelle. Tous les autres atomes, carbone, azote, oxygène, néon, magnésium, silicium, soufre, argon, calcium, jusqu'à l'uranium, sont produits par les étoiles qui s'ouvrent comme des fleurs et inséminent l'espace des produits de leur œuvre. Parce que les étoiles sont comme les abeilles, elles ont une vie et une œuvre. Elles ont une vie, donc les étoiles les plus massives qui sont bleues à la naissance. Ah oui, je devrais préciser une chose. Il faut différencier le code du plombier et le code de l'astrophysicien. Pour l'astrophysicien, bleu veut dire chaud. Et rouge veut dire froid. Une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile jaune, comme le soleil. Une étoile jaune est plus chaude qu'une étoile rouge.
Voilà, le chaud, c'est bleu en matière stellaire. Le plus chaud, c'est le plus bleu. Puis après, on descend au jaune, au orangé, et puis vers le rouge. Voilà. C'est alors cette gradation dans le sens contraire.
Oui, mais en fait, il faut faire le distinguo entre ce qu'on appelle énergie noire et matière noire. Donc, l'énergie noire est une sorte d'explosif, un écarteur d'espace. Donc, c'est cette forme d'énergie qui a mis, je dirais, les galaxies en diaspora, puisqu'on dit que l'univers est en expansion, donc l'espace se dilate entre les galaxies, n'est-ce pas ? Et donc la forme d'énergie qu'a mis en branle ou en mouvement ces galaxies, en mouvement apparent, c'est ce qu'on appelle énergie noire et qui constitue une fraction considérable de l'énergie de l'univers. Parallèlement à ceci existe ce que nous appelons matière noire. Matière noire, c'est une forme attractive, comme la matière dont nous sommes composés. Donc la gravitation, c'est l'attrait de la matière pour la matière. Donc le fait que nous tombons sur Terre est lié à cette force qu'on appelle gravitation. Et nous avons constaté que les étoiles sur les bordures des galaxies, les galaxies sont comme des grands manèges qui tournent, notamment la nôtre, et la force centrifuge aurait dû éjecter les étoiles des galaxies parce qu'elles tournent en effet relativement vite. Et donc il faut imaginer qu'il existe une forme de matière qu'on ne voit pas, totalement invisible donc, qui retient la matière visible, la nôtre, donc celle des étoiles. Et cette forme de matière que nous disons noire, en fait, c'est un abus de langage. Elle n'est pas noire. Elle est simplement, si j'ose dire, invisible. Elle sera constituée de particules élémentaires qui n'ont pas encore été qualifiées, qui n'ont pas encore été découvertes. Et donc la traque de la matière noire est un sujet de très grande importance, à la fois pour la cosmologie et pour la physique des particules. Elle est recherchée à la fois sur Terre au moyen de grands accélérateurs de particules, parce qu'on essaye de la recréer à partir des collisions de particules. Par exemple au CERN, le grand accélérateur de particules, on fait entrer en collision des protons, qui sont des noyaux d'atomes d'hydrogène, pour essayer de faire jaillir de ces collisions des particules nouvelles, ou des particules, disons, que nous considérons comme responsables de la matière noire, mais jusqu'à présent, je dirais que la quête est restée vaine. Donc on n'a pas découvert ces fameuses particules de matière noire, donc c'est un grand mystère. Donc, quant à l'énergie noire, on l'associe à ce qu'on appelle le vide quantique et c'est une forme extrêmement énigmatique. Et si on fait le bilan général, eh bien, on constate que nous ne comprenons ou ne sommes encore en train effectivement de décrire que 5% de la masse de l'univers, c'est-à-dire que vous, les étoiles et moi, ne constituons que 5% de la masse de l'univers. Tout le reste est composé d'énergie noire et de matière noire. Donc on ne peut pas dire que la connaissance ait pu progresser puisque si j'ose dire, nous en savons relativement peu par rapport à l'univers dans son ensemble. Donc il y a 20 ans ou 40 ans de cela, il n'existait qu'une forme de matière que l'on enseignait dans les écoles et qu'on appelait matière atomique. Et on pensait que tout était fait de cette matière-là et que finalement, nous comprenions la matière. Eh bien, ça n'est pas le cas. Mais pour revenir à la trilogie matière-espace-temps, il n'y a pas de temps sans espace. Par exemple, une seconde lumière, c'est le temps que met la lumière pour traverser une longueur, je dirais, qui correspond à la distance de la Lune à peu près, c'est-à-dire 300 000 km pour être, je dirais, relativement approximatif. Le Soleil est à 8 minutes lumière. Donc vous voyez que le temps et l'espace sont liés. Ils sont liés évidemment par la vitesse. Mm-hmm. Notamment la vitesse de la lumière qui est un invariant, qui est quelque chose qui est absolu. Mm-hmm. Et il n'y a pas non plus de temps sans matière parce que il existe une relation entre le temps et l'énergie qui a été découverte par Amy Noether, qui est une physicienne, la plus grande mathématicienne de tous les temps, qui était une mathématicienne juive, qui a été amenée à, rejoindre les États-Unis pour éviter ce qu'on pourrait considérer comme un malheur personnel pendant la guerre. Et cette femme a découvert une relation extraordinairement profonde entre l'énergie et le temps. L'énergie se conserve parce que le temps est homogène. Donc, je vous l'ai dit très rapidement, mais c'est une des plus grandes découvertes de tous les temps. Et Einstein l'a beaucoup admirée. Elle a fait valoir que c'était effectivement l'une des plus grandes chercheuses au monde. Et donc, j'engagerai les féministes peut-être d'en parler, ce qui me semble vraiment, pour moi, très critiquable, c'est que personne ne fait valoir l'importance, en dehors de quelques spécialistes, l'importance de cette femme mathématicienne. Oui, alors sa découverte, c'est que l'énergie se conserve, ça veut dire qu'elle n'est ni créée, ni perdue, si vous voulez. Sauf peut-être, mais on peut exclure le Big Bang et la création, qui sont vraiment des conditions particulières. Mais en dehors de cela, depuis 13,8 milliards d'années, l'énergie se conserve. Ça veut dire qu'elle reste constante, l'énergie de l'univers, n'est-ce pas? Et donc, Amy Noether a fait valoir que cette conservation d'énergie était liée à une caractéristique du temps, qui est le fait que le temps est homogène. Ça veut dire qu'il n'y a aucun accident dans le temps. Le temps reste lui-même. Mm-hmm. Vous voyez ? Et il n'est jamais brisé. Il n'y a pas de césure. Il n'y a pas d'accident dans sa nature, dans son être. Donc c'est une découverte essentielle. Mais on peut faire valoir aussi la mécanique quantique qui dit exactement la même chose. Quand on dit que l'énergie d'une particule ou d'une quelconque entité quantique est proportionnelle à la fréquence, parce que la mécanique quantique fait valoir des vibrations. Par exemple, lorsque le cœur de la lumière bat à 10 puissance 14 coups par seconde, 10 puissance 14, c'est 1 suivi de 14 zéros. Alors, cette lumière est visible. Mm-hmm. Donc, l'énergie et la fréquence sont proportionnelles. Haute énergie veut dire haute fréquence. Par exemple, l'émission radio est une émission qui dépend de la fréquence. Mais l'émission radio, la fréquence radio est une fréquence qui est très basse, par rapport à la fréquence du rayonnement visible, qui est elle-même très basse par rapport au rayonnement ultraviolet ou par rapport au rayonnement X et au rayon gamma. Donc, vous voyez qu'il y a une relation entre énergie et fréquence, mais la fréquence, c'est l'inverse du temps. La fréquence, c'est le nombre d'ondes qui passent par seconde, par unité de temps. Donc, il y a une relation entre énergie et temps, une relation inverse. Vous voyez ? Mm-hmm. Plus la fréquence est élevée, donc plus la période, le temps qui sépare, disons...
Les deux pics ?
Les deux pics, c'est exactement ça. Ou la longueur d'onde. Donc il y a une relation très claire, très fondamentale entre l'énergie et l'inverse du temps. Mmh. Donc si on fait le produit des deux, l'énergie multipliée par le temps, c'est quelque chose qui a un sens profond. Et voilà la fameuse relation que finalement la physique fait valoir de toute éternité, depuis qu'elle est mathématisée.
Alors ce Big Bang, est-ce que c'est un fictif ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est juste une hypothèse que l'on pose pour pouvoir expliquer plein de trucs ?
C'est une bonne question. Il semblerait que ce soit la meilleure théorie du moment, mais les théories sont mortelles. Pour l'instant, la théorie du Big Bang est accréditée par quasiment toutes les mesures astrophysiques faites ou cosmologiques. Il n'y a pas de contradiction. Et maintenant, Big Bang, le terme est une onomatopée trompeuse. Je pense vous l'avoir dit, parce que rien ne peut faire détonner un milieu préexistant à l'univers si l'univers est unique. Vous voyez, il n'y a pas d'extérieur à l'univers, puisqu'ils contiennent tout.
Est-ce qu'il y aurait des multivers ?
Alors, multivers, c'est autre chose, c'est une spéculation.
Voilà, encore.
Pour l'instant, un peu hasardeuse, et il n'y a pas de preuve tangible de cela. Et on peut se demander si on peut amener, si un peu un jour administrer la preuve de cela. C'est pas évident. Une des seules preuves possibles, un des seuls indices possibles, ce serait une scarification de notre propre univers en faisant l'hypothèse qu'au début, au commencement, au moment où l'univers s'est formé, puisque nous sommes l'univers, c'est une bulle dans un champagne généralisé, dans cette hypothèse un peu folle, mm-hmm. je sais bien, mm-hmm. de faire valoir, que notre bulle aurait pu être entrer en collision avec une autre bulle, auquel cas on retrouverait une trace dans le ciel de ce premier amour, si j'ose dire, ou de cette première collision. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on ne voit pas cette marque, si vous voulez.
Alors, l'apparition de la matière.
Voilà, à peu près tout ce qu'on peut en dire.
Ah,
mais
oui.
la notion d'un univers créé, ce qui est important, c'est que l'idée judéo-chrétienne islamique de la création, il est frappant de constater que oui, il semble que l'univers ait été créé, qu'auparavant il n'ait pas existé, du moins sous cette forme. Mm-hmm. Et cela contrebat, si vous voulez, la théorie grecque qui consistait depuis Aristote à imaginer
l'éternel
que l'univers
retour
était éternel.
Voilà.
L'univers, c'est un four éteint il y a 13,8 milliards d'années. On peut l'expliquer assez simplement, comme l'univers, comme l'espace est en expansion, et que comprimer, c'est chauffer, et donc l'inverse, détendre, c'est refroidir. L'univers s'est refroidi au fil de son expansion. Et donc, quand on refroidit, on produit effectivement des condensations. L'hydrogène est le seul élément, avec une partie de l'hélium et un zeste de lithium, ce sont les trois seules choses qui viennent du Big Bang, et tout le reste a été produit par les étoiles, qui sont des usines, les lieux où la matière se complexifie. si vous voulez, la production du carbone est essentielle, et le carbone est essentiel à la vie, puisqu'on parlait de l'origine de la vie est organique. Enfin, ce qu'on appelle molécules organiques, ce sont des molécules qui contiennent du carbone. Oui. Pour que la vie telle que nous la concevons puisse exister, il faut que le carbone soit disponible. Or, le carbone est produit par les étoiles, et l'oxygène aussi d'ailleurs. Alors, pour revenir sur le temps est, je dirais, le mystère le plus profond à la fois de la philosophie et de la physique. Je peux vous en proposer quelques définitions, enfin, qui ne viennent pas de moi. Par exemple, l'une des plus belles est de Platon. Platon dit « Le temps est l'image mobile de l'éternité », ce qui est superbe. En effet, peut-être un peu ésotérique, je l'entends de la manière suivante, le temps avance inlassablement et de manière illimitée. Et donc, il y a éternité dans le passage du temps, sans césure, brisure et sans faille. Une deuxième définition provient d'Aristote. Aristote dit « le temps est la mesure du mouvement ». On peut élargir la définition en disant que le temps est la mesure du changement. Nous le ressentons, effectivement, le temps est à l'origine, si j'ose dire, de l'histoire et de l'évolution. Donc ceci nous semble très clair, en effet. De manière fort pertinente, fait valoir que l'espace est l'ordre des coexistences, c'est-à-dire des choses qui existent au même moment, et le temps est l'ordre des successifs, ce qui est parfaitement licite, explicite, et qu'on peut accepter très facilement. Et Einstein, à la grande joie des horlogers, dit que le temps est ce qui est mesuré par l'horloge. Donc voilà quelques propositions. Et je reviens donc à l'origine, si j'ose dire, qui n'est pas la création ex nihilo de la Bible, mais qui s'y rapporte, le temps est né avec le monde. Il n'y a pas de temps sans le monde, voyez-vous. Et donc l'histoire que nous racontons, ou plutôt le grand, je dirais, comment la définir, l'épopée que nous racontons, nous cosmologistes, et astrophysicien, est celle du passage du simple au complexe. Par exemple, l'hydrogène, qui est l'élément numéro un de la nature parce qu'il est composé d'un seul proton, fait place, ou plutôt se transforme partiellement en hélium, et l'hélium en carbone, et le carbone en oxygène, et l'oxygène en silicium, le silicium en fer, etc., dans les fours stellaires. Donc c'est une histoire de chaleur intense. Donc l'étoile, si vous voulez, c'est l'anti-Big Bang. Elle condense et réchauffe la matière alors que le Big Bang, c'est-à-dire l'expansion de l'univers, enfin ce qui suit le Big Bang, l'expansion de l'espace ne fait que refroidir. Donc l'univers est un four éteint depuis 13,8 milliards d'années et on peut considérer effectivement que certaines choses se cristallisent progressivement. Donc au début sont des populations de particules anonymes et à l'époque actuelle, on peut distinguer différents objets et donc l'histoire de l'univers ne peut être conçue qu'à travers une évolution et une complexification de la matière jusqu'à l'herbe des prés et la confusion des sentiments, si vous voulez. En partant d'une population de particules anonymes et indistinctes.
Est-ce que je pourrais vous demander, M. Michel Cassé, si l'idée du temps n'est pas liée à la perception du cerveau humain ? S'il n'y avait pas d'humanité sur cette terre, d'humanité consciente, la succession des instants n'aurait pas eu cette vitalisation. Donc carrément, puisque nous le ressentons dans notre esprit, le temps s'incarne dans une réalité humaine.
Oui, c'est une très bonne question, mais je ferais valoir qu'il y a un temps où il n'y avait personne. Mm-hmm. voyez, par exemple, quand on dit les dinosaures sont morts il y a 65 millions d'années, personne n'y était, enfin aucun humain n'y était. Et pourtant, nous parlons d'un temps, effectivement, qui prend sens dans notre esprit. Et j'insiste pour dire qu'il n'y avait personne. Par exemple, quand le Soleil est né il y a 4,6 milliards d'années, il n'y avait pas d'humain non plus. Et justement, ceci tient au fait qu'on imagine que le temps est sans césure. Vous voyez, il y a un temps ressenti, oui, par exemple, on s'ennuie parfois et les secondes semblent très longues. Et quand on est joyeux et qu'on vit des événements, disons, caressants, eh bien, on a l'impression que le temps coule moins vite, passe moins vite. Mais il existe, à mon sens, un temps objectif qui est celui de l'expansion de l'univers. Donc on dit l'univers a 13,8 milliards d'années, c'est bien que le temps a une signification avant même que nous soyons pensants et existants. Mais ceci dit, la matière qui pense se penche sur son passé de matière inerte, stellaire et nuageuse, et par-delà sur son passé de lumière et de vide quantique. Vous voyez ? Donc il y a effectivement infusion de la pensée dans le temps. Tout ceci peut sembler un peu contradictoire, ça veut dire qu'il y a plusieurs notions de temps. Et vous avez raison, il y a un temps psychologique, il y a un temps cosmique. Et il faut bien avouer aussi que la deuxième loi de la thermodynamique qui prétend que l'entropie de l'univers ne peut aller que croissant, cela signifie que le désordre doit régner parce qu'il y a plus d'états possibles dans le désordre que dans l'ordre. Cette loi semble indubitable, mais elle nous parle du temps, encore une fois. Donc il y a aussi un temps que j'appellerais thermodynamique.
Avec origine, et pas forcément lorsqu'il y a, on vous avait dit qu'il y a l'avènement du temps, l'avènement du cosmos, l'avènement de ce monde astrophysique. Oui. Mais s'il y a un point de départ, il n'y a pas forcément un point final, puisqu'il y a les... Voilà.
Donc le temps, vous avez absolument raison. Le temps est ouvert vers l'avenir. Et il est peut-être clos dans le passé. On s'y a une origine. Mais cette origine, c'est peut-être l'origine de l'intelligibilité du monde, parce qu'il se pourrait, ou certains font valoir une cosmologie cyclique qui ressemble, si vous voulez, à celle de Platon. Donc, il y a affrontement, je dirais qu'il y a dichotomie entre un temps cyclique qui ressemble au cercle, et donc les Grecs amoureux du cercle raisonnent peut-être en cercle, et il y a aussi une flèche du temps, semble-t-il, qui serait le temps judéo-chrétien islamique, voyez, qui pourrait être relativement cyclique pour les chrétiens puisqu'ils attendent un retour du Christ. Je pense que les Juifs, eux, ont un temps ouvert. Enfin, ils attendent peut-être un Messie, mais alors là, c'est à vous de me le dire. Est-ce qu'il y a une notion de fin ?
Rappelle donc, Monsieur Michel Cassé, que vous êtes astrophysicien, ancien directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et à l'Institut d'astrophysique de Paris, que ce livre passionnant dont nous avons parlé, dont le titre est « Au croisement des univers parallèles » et qui paraît chez Odile Jacob, a été écrit avec vous par Joseph Silk, cosmologiste anglais, astrophysicien et l'un des pionniers de la cosmologie moderne. Ce fut un moment passionnant.
C'est moi qui vous remercie.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C. Solange. We'll be right back.